Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
Les frontières de la tolérance.
Bouge pas, nous sommes arrivés.
Ah.
Y a quelqu'un ? Ils dorment, les pauvres. Ça m'ennuie de les réveiller, mais je peux pas faire autrement.
Vous l'avez entendu, Saint-Joseph ? Il n'y a pas plus brave que cet homme. Il aime pas déranger les gens. Et même quand il s'est aperçu que le cabanon était une étable, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais elles avaient travaillé toute la journée et elles avaient le droit de dormir comme tout le monde.
Galabru, disant au Douard, la crèche. Ah bah le débat est de saison. Où, dans l'espace public français, peut-on l'installer sans déranger ? Le Conseil d'État, notre plus haute juridiction administrative, vient à cet égard de prendre une décision en deux parties. Écoutez bien. 1. Dans les bâtiments publics, elle n'a pas sa place, sauf si des circonstances particulières montrent qu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif. 2. Dans l'espace public au sens large, dans le cadre des installations de fin d'année, elle a sa place, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme. Mais tel respect qu'on doit au Conseil d'État, il faut reconnaître que cet énoncé est un peu brumeux et que les rois mages pourraient y perdre leur étoile. On sera peut-être surpris, mais aux États-Unis, la loi en la matière peut être plus claire. Les États-Unis tiennent à la plus grande liberté religieuse qui soit, au nom du principe que la vérité a besoin du choc des idées. Néanmoins, il y a, aux États-Unis, une laïcité dans l'espace public. Dans les écoles publiques, dans les cimetières militaires, aux alentours des parlements des États, place nette est faite pour le drapeau, qui seul peut incarner la religion civile. C'est du moins le principe. En la matière, il n'y a jamais vraiment de prêt-à-porter. Les manières d'envisager le pluralisme religieux sont elles-mêmes plurielles. L'explication tient pour une bonne part aux chemins historiques qu'a pu emprunter l'idée de tolérance. Chemin très différent selon les pays.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Denis Lacorne, bonjour.
Bonjour.
Les frontières de la tolérance, ben nous avons emprunté ce titre à votre dernier livre aux éditions du Seuil. Alors chacun connaît...
Gallimard.
Du Seuil, de Gallimard, parce que, excusez-moi, chacun connaît l'expérience américaine de Denis Lacorne. Votre livre sur Dieu en Amérique, par exemple. Mais voilà, vous hasardez maintenant, enfin vous avez quand même du bagage, sur le continent européen, dans une perspective de comparaison.
Oui, l'idée c'est de sortir, je m'intéresse beaucoup au débat franco-français sur le voile, les crèches, etc., mais de donner une perspective plus large et de voir ce qui se passe chez nos voisins, en Angleterre, en Italie, mais aussi en Amérique du Nord, mais aussi plus loin encore dans l'Empire ottoman, et puis un retour dans le passé. Je crois que c'est important de donner une profondeur historique à nos débats actuels et de voir que le débat sur la tolérance, il est très ancien finalement, il existe dès le XVIe siècle.
Alors, en France, souvent, on associe les guerres de religion à une régression. On verra que, quand vous nous parlerez du domaine anglais ou du domaine américain, la religion est partie prenante de la modernité. C'est pas du tout le sentiment qu'on a dans notre pays. Peut-être à cause des horreurs qui se sont commises pendant des décennies au XVIe siècle que vous évoquiez, et auxquelles le roi Henri IV, gloire au roi Henri IV, on va entendre une musique tout à fait triomphante, a tenté de résoudre en 1598.
Je veux parachever et signer ce qui restera dans l'histoire. Comme l'édit de Nantes.
Sire, il faut donner aux réformés non des droits, mais des privilèges.
Pour commencer, la liberté de culte sera autorisée dans toutes les villes où le protestantisme fut établi avant 1597. Le culte sera autorisé dans une ville par bailliage. À Paris, les protestants devront célébrer leur cérémonie dans leur logis sans psalmodier à haute voix et en évitant toute provocation, tapage ou scandale.
Sans avoir de temple.
Ils auront un temple à Charenton et non dedans de Paris par mesure de prudence. Mais je veux l'égalité civile entre protestants et catholiques. Les huguenots seront autorisés à exercer toutes les charges publiques et seront admis comme les catholiques dans les hôpitaux, les écoles et les universités. En payant.
Sire, puisse, pour le salut de l'État, votre édit qui légalise le principe de la liberté de penser et d'exercer le culte de son choix être perpétuel et irrévocable.
Mise en scène au Théâtre de Genève, une pièce Henri IV, Le Vergalant, de Monique Lachère. Alors, deux interprétations, Denis Lacorne. C'est un texte précurseur des droits de l'homme. Autre interprétation, c'est un texte pragmatique qui tient compte des rapports de force, veut éviter les violences inutiles, mais n'est peut-être que provisoire.
Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est l'aspect quand même perpétuel de ce texte. Ça ne sera pas tenu, la promesse ne sera pas tenue, puisqu'il y a la révocation de l'édit de Nantes en 1685.
Oui.
Mais il y a une belle phrase dans l'édit de Nantes qui est une bonne définition de la tolérance, mais qui malheureusement ne sera pas tenue non plus. Et là, je cite l'édit de Nantes. De quoi il s'agit ? Il s'agit de créer un système pour vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens. Donc c'est une merveilleuse définition de ce qu'est la tolérance. Et en même temps, comme l'a bien dit un spécialiste du protestantisme, Patrick Cabanel, c'est la tolérance dans un système d'intolérance. Parce que la religion officielle reste le catholicisme, la religion du roi, et les bastions du protestantisme sont figés. On garde ceux qui existent, mais il n'est pas question pour les protestants de s'installer à Paris, par exemple, ou à la cour. Le protestantisme n'a pas de place. Il y a aussi des places fortes au cas où les protestants seraient menacés ou voudraient se protéger. Mais dans le fond, on interdit tout prosélytisme. Les régions qui sont protestantes le restent, mais il n'est pas question d'étendre l'influence du protestantisme.
Et puis le mot qui vaudra peu à peu, c'est le mot de RPR. RPR, ça veut dire, dans le langage royal, religion prétendue réformée.
Prétendue. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une vérité, dans le fond. On tolère d'autres, la vérité de la réforme, mais avec réticence, ne serait-ce que d'un point de vue régional. Et puis, cet édit perpétuel, eh bien, ne sera pas perpétuel.
On parlera de sa révocation dans peu de temps, mais est-ce qu'on peut, puisque vous citiez le cas ottoman, dire qu'il y a peut-être une tolérance chez les Ottomans, dans leur empire, dans un cadre beaucoup plus large que celui du royaume, au XVIe siècle, un peu comparable à celle à quoi aboutit Henri IV.
Au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, c'est-à-dire que au moment où nous, on a quand même des guerres de religion très très violentes, la Saint-Barthélemy, c'est 30 000 morts, dont 10 000 à Paris. La guerre de 30 ans, c'est 200 000 morts. Donc au moment où on a des guerres civiles, religieuses, dans l'Empire ottoman, où certes, il y a une religion officielle qui est l'islam, donc il y a une hiérarchie de religions, la religion du sultan, mais le système du millet permet dans la plupart des grandes villes, à Constantinople, à Izmir, et d'autres très grandes villes, permet la cohabitation de religions très différentes, c'est-à-dire des Grecs orthodoxes, des Arméniens, des Juifs, qui vont garder non seulement leurs églises, leurs synagogues, mais qui auront leurs tribunaux, qui auront leurs écoles rabbiniques ou leurs écoles théologiques correspondant à leur religion, qui vivront en paix.
Oui, mais certes, devront,
alors il y a une contrepartie, il faudra payer un impôt.
Il faudra qu'ils payent un impôt. Et quand ils sont dans une réunion publique et qu'arrivent des musulmans, ils doivent se lever. Et ils n'ont pas le droit de construire des maisons plus hautes que celles des musulmans pour pas plonger le regard.
Oui. Oui. Donc il y a des contraintes, effectivement. Mais quand même, liberté de mouvement, liberté de faire du commerce, c'est une tolérance mercantiliste et impériale. Ça permet à un empire qui, dans le fond, à coloniser des régions entièrement chrétiennes, comme les Balkans, eh bien de faire avec des gens qui constituent à certains moments la majorité. On a une minorité de musulmans qui contrôle une majorité de non-musulmans.
Mais la tolérance, entre guillemets, musulmane de l'Empire ottoman va se détricoter à mesure que la tolérance plus positive va se construire en Europe occidentale. Alors, vous citiez la date de 1685, on vient à cette époque. 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes, peu après les dragonnades, l'obligation pour les protestants, s'ils ne s'exilent pas, de devenir des nouveaux convertis. La même année, en Angleterre, un ami de Louis XIV, Jacques II, devient roi, et Jacques II veut
absolument considérer que la mission de sa famille, les Stuart, est de restaurer un catholicisme un et seul dans un pays très largement protestant et où le protestantisme est pluriel. Et le gendre de Jacques II se décide pour défendre la liberté religieuse des anglicans et des protestants à débarquer depuis ses Pays-Bas en Angleterre pour chasser le roi catholique.
Jacques II, inquiet, se préoccupa de mettre en sûreté le prince de Galles, âgé de 6 mois. Il tremblait moins pour la vie que pour la foi de son fils. Tombé aux mains des rebelles, l'héritier du trône ne serait-il pas élevé dans la religion protestante? Il résolut de l'envoyer en France avec la reine. La reine sortirait par le jardin privé. Il y aurait un carrosse à la porte du jardin, des bateaux en rosse ferrée sur la Tamise, un autre carrosse à Lambeth sur la rive opposée.
En résultat de ce qu'on appela la glorieuse révolution, le roi impopulaire Jacques II fut obligé de quitter son trône. Mais un événement encore plus important se produisit, l'adoption d'une déclaration des droits d'Angleterre qui donnait au Parlement plus de pouvoir qu'au roi. Cela représentait une telle victoire pour la démocratie que cette déclaration fut une inspiration majeure pour la rédaction de la Constitution des États-Unis.
Inspiration majeure, mais peu de traces dans les archives radiophoniques. Heureusement qu'il y a l'heure de culture française en 48. Et puis cet extrait d'une émission très pédagogique de la BBC, La Glorieuse Révolution, c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est
89.
Et ce n'est pas un hasard, si c'est en 1689, je sais que c'est la date sur laquelle vous voulez insister davantage, Denis Lacorne, que Locke écrit la lettre sur la tolérance. John Locke, très important pour notre propos.
Il l'écrit en fait en latin d'abord en 1685, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, mais ça sera publié en 1689 seulement, en latin et en anglais. Et oui, c'est une date clé parce que Locke vit en exil en Hollande. Il craint le retour du catholicisme avec Jacques II. Donc il se protège, il se cache comme beaucoup de partisans de la Révolution glorieuse en Hollande. Et c'est là qu'il va rencontrer d'autres, des Huguenots comme Pierre Bel, par exemple, qui vont pousser très loin la réflexion sur la tolérance. Et c'est là qu'il conçoit ce système qui est pratiquement ouvert à toutes les religions. C'est ça la nouveauté. Il tolère toutes les religions, même celles des Amérindiens, même celles des païens. Et il accepte aussi le catholicisme comme dogme, mais il ne l'accepte pas comme religion parce que le catholicisme est une religion qui met en cause l'ordre public. Il y a le risque d'un coup d'État, effectivement, en Angleterre, qui sera défait par l'intervention de Guillaume et Marie qui viendront donc de Hollande pour empêcher la restauration du catholicisme. Donc pour Locke, c'est sa seule ambivalence. Il accepte toutes les religions, sauf l'athéisme et sauf la religion catholique, parce que la religion catholique est pour lui une religion qui porte atteinte à l'ordre public et qui veut renverser le gouvernement existant et la monarchie anglicane qui est déjà tolérante.
Il fait la différence entre le croyant, juge de la vérité de sa foi, puis le sujet dont les actes sont subordonnés à l'autorité civile. Il va très loin d'ailleurs dans l'idée de séparation de l'Église et de l'État, plus loin que l'autre grand pilier qui apparaît dans votre livre, qui repousse lui aussi les frontières de la tolérance et qui est en France plus tard. 1763, oui. Voltaire, traité sur la tolérance.
Traité sur la tolérance, qui est surtout une réflexion sur l'affaire Calas, dans le fond. Mais Voltaire constate l'archaïsme de la société française. C'est-à-dire, au moment où la tolérance se développe véritablement en Angleterre, avec la loi sur la tolérance de 1689, mais aussi en Hollande, mais aussi dans les colonies d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on fait en France? Nous, on continue à exécuter des gens pour des motifs les plus bizarres et les plus scandaleux. Calas est accusé de parricide parce que son fils aurait tenté de se convertir au catholicisme, ça n'était pas le cas, il a été exécuté. Il y a l'affaire du chevalier de la Barre, 2 ans après, qui est accusé de blasphème, qui sera aussi exécuté, brûlé, on attachera sur son dos le dictionnaire philosophique portatif de Voltaire. Donc il constate le retard français, dans le fond, par rapport à ses voisins. Nous, on est encore très cruels en matière de religion, une époque où la tolérance s'installe lentement, ça prend du temps à se mettre en place, mais de façon visible quand même, en Hollande, en Angleterre, Angleterre.
Et dans les colonies d'Amérique. Parce qu'il dit, Voltaire, sortons de notre petite sphère, il met en avant les différentes colonies d'Amérique dont vous étudiez dans les frontières de la tolérance. On ne va pas entrer dans le détail. Les différentes constitutions, et selon la région, le futur État, eh bien, les positions sont différentes, mais tendent à dire que la liberté religieuse, comme la liberté politique, doivent être sauvegardées coûte que coûte. C'est d'ailleurs la liberté religieuse qui est presque le moteur de la liberté politique.
Oui, le pluralisme religieux est ce qui mène au pluralisme politique. Et dans les colonies en question, bon, vous avez les colonies puritaines de la Nouvelle-Angleterre qui, elles, sont théocratiques, sont tout sauf tolérantes, mais vous avez le Rhode Island fondé par un baptiste qui est Roger Williams, qui pousse très très loin l'idée de tolérance et qui invente la métaphore d'un mur de séparation entre l'Église et l'État. Et puis vous avez la Nouvelle-Néerlande, vous avez la Pennsylvanie, le pays de Guillaume Penn, le Quaker, qui est d'une tolérance admirable. Les Carolines, dont Locke a rédigé les constitutions, puisque le protecteur de Locke était l'un des propriétaires des territoires de Caroline. Et là, on admet qu'on puisse avoir des juifs, des quakers, des luthériens. La liberté religieuse est complète dans la constitution de Locke.
Oui, mais maintenant, on va réfléchir, dans la deuxième partie de cette émission, Denis Lacorne, à la mise en application dans le monde plus contemporain, et notamment avec les religions nouvelles qui obéissent à des normes souvent éloignées des normes généralement adoptées aux États-Unis d'Amérique naissants. Je pense par exemple aux Mormons. Voici un extrait de cette comédie musicale qui date de 2011 et qui a eu beaucoup de succès à Broadway, qui s'appelle Book of Mormon.
Hello, my name is Elder Young. Hello, did you know that Jesus lived here in the USA? You can read all about it now.
Hello,
in this nifty book, it's free, no, you don't have to pay.
Hello,
hello, my name is Elder Smith, and can I leave this book with you for you to just peruse?
Hello,
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 I'll just leave it here, it has a lot of information you can really use. Hello,
hi,
my name is
Jesus Christ,
you have a lovely home.
Hello,
it's an amazing book.
Bonjour,
hola,
ni hao,
me llamo Elder White,
are these your kids?
This book gives you the secret to eternal life.
Sound good?
Eternal life
with Jesus Christ.
It's super fun.
Hello.
And if you let us in, we'll show you how it can be done.
No thanks.
You're
sure?
Oh, well, that's fine.
Goodbye.
Have fun in hell.
Hey now.
You simply won't believe how much this book will change your life. Will change your mind.
Will change your life.
This book will change your life.
Hello.
This book will change your life.
Will change
this book. Will change your life. The Book of Mormon.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Jusqu'où peut-on pousser les frontières de la tolérance? Alors, aux États-Unis d'abord, Denis Lacorne publie un livre aux éditions Gallimard. Oui, bonjour les problèmes avec les Mormons. Leur prophète Joseph Smith, l'installation des Mormons, si on peut appeler ça une installation, c'est les années 1830-1850, défend le mariage pluriel. Le mariage pluriel, ça veut dire la polygamie. Et alors là...
Oui, c'est la bonne question des limites de la tolérance. Alors, à l'époque, il est dans un territoire qui n'est pas encore rattaché à l'Union, Joseph Smith et ses disciples, l'Utah, et se pose la question de, il faut qu'on devienne un État comme les autres, parce que ça donne tous les avantages d'une citoyenneté pleine et entière dans cette fédération que sont les États-Unis. Donc, il souhaite le rattachement de l'Utah, mais objection est faite, et c'est un cas qui va jusqu'à la Cour suprême, dans le cas Reynolds. On ne peut pas permettre d'accorder, disons, une citoyenneté pleine et entière aux Mormons à cause de la polygamie qui est contraire aux bonnes mœurs. Et à l'époque, on la compare à un phénomène qui serait asiatique, une espèce de barbarie asiatique qui est inacceptable dans un monde de mœurs, dans une civilisation occidentale. Donc on traite les Mormons, qui sont pourtant tous d'origine européenne, comme des barbares qui viendraient d'une Asie lointaine.
Alors le recours à la Cour suprême donne tort aux Mormons,
oui,
ça n'est appliqué vraiment que quand il y a une gamme de sanctions suffisante.
Oui, parce que plus de 40% des Mormons sont polygames, et c'est seulement au moment où on porte atteinte aux possessions des Mormons, à leur propriété, que finalement les leaders de cette église vont décider de changer le dogme. On va mettre entre parenthèses le dogme, qui est toujours inscrit dans le livre de Mormon, mais on va décider de ne plus pratiquer la polygamie, ce qui facilitera le rattachement de l'Utah à l'Union, et ça facilitera aussi l'intégration, l'assimilation des Mormons. Et souvenons-nous que Romney était un candidat mormon, le premier candidat à la présidence des États-Unis.
Moins nombreux que les Mormons, se développant un peu plus tard, à partir des années 1870, les Amish. Alors les Amish veulent par exemple échapper à la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, ou au combat dans l'armée. Un extrait du film Witness.
Nous pensons que c'est mal de prendre la vie. Seul Dieu a le droit de le faire. Bien des fois, les guerres sont venues. Eh bien, des fois, on nous a dit, il faut vous battre, il faut tuer. C'est le seul et unique moyen de préserver le bien. Mais, Samuel, il n'y a pas qu'un seul moyen. N'oublie pas ça. Pourrais-tu tuer un autre homme, Samuel?
Je ne tuerai qu'un homme méchant.
Tu ne tueras qu'un homme méchant, oui. Et tu reconnais cet homme au premier coup d'œil. Tu es capable de regarder dans son cœur et de voir cette méchanceté.
Non, mais je vois ce qu'ils font. Je l'ai déjà vu.
Alors, en parlant ainsi, tu deviens comme un de ces hommes. Ne comprends-tu pas? Ce que tu as dans tes mains, tu l'as dans ton cœur. Ne touche pas à la chose impure.
Ne touche pas à l'arme impure. Ne va pas trop loin non plus dans l'école obligatoire où tu pourrais apprendre l'impureté. Il semble à vous lire que la Cour suprême, qui a forcé les Mormons à rompre avec une partie de son dogme, accorde des exemptions aux Amish.
Oui, pour moi, c'est un exemple de ce que j'appelle la tolérance multiculturelle aux États-Unis, où la Cour suprême, dans le fond, va privilégier le groupe sur l'individu. Et le raisonnement, c'est que, comme, soi-disant, c'est contestable en soi, mais comme, soi-disant, l'église des Amish est une église toute petite dont la survie est risquée, est en jeu.
Ils sont 250 000.
Aujourd'hui, mais à l'époque, on pensait qu'ils n'étaient pas 250 000. Et donc, pour garantir leur survie, on décide de faire une concession majeure qui est de permettre d'enlever les enfants. Ils n'iront jamais au lycée et jamais à l'université, parce qu'on a besoin de bras pour travailler la terre. Les machines sont interdites, les machines modernes, il y a juste des chevaux, des charrues traditionnelles, donc il faut beaucoup de main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre sera celle des enfants des Amish, qui sont, d'une certaine façon, privés d'une éducation complète.
Et privés de sortie.
Et privés de sortie, c'est ça le vrai problème. C'est le jour où un Amish veut quitter la religion de ses parents, ben, qu'est-ce qu'il est? Il est chômeur, absolument incompétent, parce qu'il n'a pas vraiment fait d'études, il n'a même pas terminé le lycée. Et se pose ainsi la question du droit de sortie. Mais là, c'est une décision de la Cour suprême qui donne d'énormes avantages, effectivement, à la communauté des Amish au nom du principe de survie.
Réglé ou pas par la Cour suprême, beaucoup de dossiers passent entre vos mains et sont exposés dans les frontières de la tolérance, Denis Lacorne. Je voudrais qu'on en prenne un, parce qu'il est d'actualité, celui du monument religieux intermittent. Enfin, je veux dire, la crèche. Donc, il y a une décision en France du Conseil d'État, un petit peu énigmatique, qui définit des possibilités variables, au fond. Qu'est-ce qu'il en est aux États-Unis? On est étonné, à vous lire, de voir que la règle en matière de monuments religieux permittants ou intermittents est souvent plus dure aux États-Unis qu'en France.
Oui, il ne faut pas que la crèche ou qu'une grande croix dans un lieu public, dans un cimetière militaire, ne symbolise ou n'incarne qu'une seule religion, parce que ça laissera entendre qu'on privilégie une religion sur d'autres ou sur la non-religion. Et ça, c'est inacceptable. Le premier amendement interdit ce type d'ingérence qui déconfessionnalise l'État, dans le fond. Alors, dans le cas de la grande croix du Mont Soledad à San Diego, c'est une croix gigantesque qui choque des gens qui ne ne sont pas chrétiens.
Alors c'est au sommet d'une...
Au sommet d'une colline qu'on voit de très très bien des autoroutes qui vont entre Los Angeles et San Diego.
À l'origine dans un terrain privé, mais c'est devenu un cimetière militaire.
Voilà. Alors à partir du moment où c'est un terrain public, géré par l'armée, un cimetière militaire, des vétérans juifs notamment estiment qu'on en fait trop pour le christianisme et qu'il faut enlever cette croix. Alors c'est une très longue controverse qui va devant les tribunaux fédéraux régionaux, pas jusqu'à la Cour suprême, mais et les tribunaux fédéraux décident que ben oui, on peut pas, il faut la démonter à moins de trouver une autre solution, parce que cette croix privilégie une religion parmi d'autres, et c'est une croix active, c'est-à-dire que il y a des messes de Pâques qui ont lieu, ou des messes fréquentes sous la croix, des chrétiens viennent, donc ça montrait une préférence de l'État pour une religion, donc décision, il faut la démanteler, et la solution...
Écoutez la solution, chers auditeurs, parce que c'est habile.
Le compromis,
donc c'est devenu un cimetière militaire public.
Ça reste un cimetière militaire public, mais la petite partie de la montagne où il y a la croix va être privatisée et gérée par un organisme où les évangéliques sont nombreux et vont garder donc dans un lieu privé cette croix.
By God, voilà, comment n'y avait-on pas pensé auparavant? Et les crèches?
Les crèches, même solution. C'est-à-dire, on peut pas avoir une seule crèche dans un lieu public, devant une mairie ou dans un centre commercial public, parce que c'est porter atteinte à la séparation de l'Église et de l'État. Mais si la crèche est entourée d'objets profanes, d'un sapin de Noël ou d'objets appartenant à d'autres religions, un chandelier à neuf branches, où il y a un clown ou un éléphant à côté de la crèche, à ce moment-là, ça passe. C'est-à-dire que ça atténue le caractère chrétien de la crèche, elle est pratiquement sécularisée et elle est acceptable. Même chose pour les tables des 10 commandements. On peut pas les mettre seuls dans un tribunal ou dans une école ou devant un parlement local, mais si la table des 10 commandements est entourée d'objets sans rapport et de nature profane, à ce moment-là, ça passe aussi.
Donc c'est une solution qu'on pourrait indiquer comme une issue aussi
peut-être
en
pour
France.
Les crèches en France. Oui, parce que le Conseil d'État n'envisage pas fait référence à un usage local ancien, à l'aspect festif de la crèche traditionnelle, mais ne dit pas qu'à côté de la crèche, il faut nécessairement des objets qui appartiennent soit à d'autres religions, soit profanes, ou soit symbolisent même la non-religion ou l'athéisme.
Vous savez qu'il y a un endroit en France qui est un espace public où la crèche ne peut pas être interdite, c'est la Légion étrangère. Il y a aussi la solution de faire garder par l'armée les crèches, non? Bon, mais ne plaisantons pas.
Oui, mais il y a aussi des chapelains financés par l'État dans l'armée française. Donc la séparation de l'Église et de l'État n'est pas absolue. Et certains chapelains même organisent un pèlerinage à la Mecque dans l'armée française. Donc le mur de séparation, que ce soit en France ou aux États-Unis, n'est jamais complet.
Frontières mouvantes de la tolérance, c'est un livre aux éditions Gallimard, pluralisme des pluralismes religieux. On va terminer sur cette morale ambiguë. Loïc Frapsos à la technique, pour la préparation Frédéric Martin, et la réalisation c'était Valérie Aestaraï. Alors on parlait des crèches, et vous, Mathieu Vidard, les animaux OGM?
Mais oui, on va parler d'un animal justement vedette des laboratoires, c'est le poisson zèbre.
Ah bon, ça on risque pas de le trouver dans la crèche. Merci à vous, dans un instant, la tête au carré.